Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Maxime Ingrand. La gourmandise ce matin est une réflexion du philosophe roumain Émile Cioran, tirée de l'ouvrage de 73 qui porte le meilleur titre qui soit de l'inconvénient d'être né. La voici. La maxime stoïcienne selon laquelle nous devons nous plier sans murmure aux choses qui ne dépendent pas de nous ne tient compte que des malheurs extérieurs qui échappent à notre volonté. Mais ceux qui viennent de nous-mêmes, comment nous en accommoder ? Si nous sommes la source de nos maux, à qui nous en prendre ? À nous-mêmes ? Nous nous arrangeons heureusement pour oublier que nous sommes les vrais coupables. Et d'ailleurs, l'existence n'est tolérable que si nous renouvelons chaque jour ce mensonge et cet oubli. Notre apothicaire de l'âme grandit à Vannes, se fait éjecter de 4 lycées, puis s'ennuie pendant ses études de lettres à Rennes où il attend ses 21 ans pour découvrir le théâtre. Il suit une formation d'acteur à Paris et intègre en 2000 l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille. Pendant 8 ans, il joue sur les planches et il me fait un signe en forme de tourbillon.
C'était un petit peu avant, c'était en 97.
Ah oui, presque, seulement 3 ans d'écart.
Ouais. Non mais c'est pas très grave, mais c'est juste... J'avais envie de le dire.
Mais vous avez raison,
ouais.
Intervenez. Alors pendant 8 ans, vous avez sur les planches joué le texte des autres. Puis ensuite, je vais repasser à la troisième personne. Il fonde sa propre compagnie, Les Chiens de Navarre, qu'il dirige et met en scène depuis 15 ans. Ce chef de meute initie des créations collectives drôlatiques et insolentes dans lesquelles le rire procède d'un désolant état des lieux du réel. Les névroses de l'époque y sont décortiquées avec fantaisie, cruauté et désillusion. L'un de ses spectacles est d'ailleurs basé sur la notion de mélancolie. En 2013, je me suis peut-être trompée encore, il réalise un moyen-métrage, Il est des nôtres, sur quelqu'un qui ne veut justement pas l'être. Et en 2016, le long-métrage Apnée, qui met en scène un trio de marginaux blasés refusant de participer à la grotesque comédie sociale que le siècle nous impose. Bonjour Jean-Christophe Meurice.
Bonjour.
Jean-Christophe Meurice, la première question de cette émission est toujours la même, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Et je sais que vous citez Deleuze, avec lequel vous êtes d'accord, lorsqu'il dit « Nos dépressions ne sont pas seulement dues à nos parents, mais aussi à l'état du monde ». C'est quelque chose qui vous affecte autant que vos démons intérieurs ?
Oui, en tout cas, c'est important de le dire ou le redire, parce que je trouve ça assez juste. On pense toujours que c'est à cause de papa et maman qu'on peut être triste ou mélancolique, mais je pense que c'est quand même très souvent aussi à l'état du monde. C'est d'une autre manière... Van Gogh aussi le disait différemment, il disait « c'est pas moi qui suis triste, c'est le monde qui est triste ». Donc j'aime assez ce rappel, entre guillemets, qu'on peut être aussi très influencé par ce qui nous entoure, et pas obligatoirement d'où on vient. Quoi. Moi, mon rapport à la... je sais pas s'il y a un rapport, en tout cas, moi je la déteste, quoi. Je la hais, quoi. J'ai une haine profonde pour tout ce qui est mélancolique. Quand je venais à votre émission, j'étais dans le métro et il y avait un type à côté de moi qui était en train de dire « La plus belle vie du monde ». C'était juste un sous-titre. Et je me suis dit « Tiens, la plus belle vie du monde, c'est surtout une vie faite d'intensité, de passion, d'amour, d'excitation, de curiosité, mais sûrement pas de mélancolie. Enfin, la mélancolie, c'est quelque chose qui, comment dire, nous met par terre. Ça, moi, c'est pour moi une vieille ennemie qui, par contre, loge en moi et qui est bien content d'avoir fait sa niche comme un vieux chien galeux. Mais moi, je n'ai aucun respect pour la mélancolie. Je trouve que c'est une connasse, c'est une tartine de merde. Et elle, comment dire, elle nous enferme, elle nous étouffe. Moi, je traque, comment dire, je cherche partout la joie, je la traque comme un chasseur dans une forêt. Enfin, je vois pas en quoi on peut en faire une gloire d'avoir cette mélancolie qui nous empêche de vivre à l'instant présent. D'ailleurs, je trouve que le mot mélancolie est un mot un peu faux cul, quoi. Parce que on se dit, tiens, c'est un garçon ou une fille mélancolique, donc il y a quelque chose de séduisant, on aura envie de parler avec, voire de coucher avec, parce que tu vois. Mais on dit pas, non, c'est comment dire, c'est... Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose, on se dit, tiens, c'est quelqu'un de sensible, sans doute de très singulier.
La barbe.
Non, peut-être pas, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, pas vous. Mais par contre, on dirait, tiens, c'est quelqu'un de dépressif, chronique, à tendance suicidaire. Là, par contre, là, c'est... Ah non, tiens, j'ai pas envie de lui lui causer. Enfin, vous voyez, en plus, je trouve que la mélancolie, en plus, c'est quelque chose qui nous fait terriblement peur. Mais terriblement peur à nous-mêmes et les autres en ont peur. Donc, effectivement, comme je la hais, je la fuis.
Et ça fonctionne ?
Non, si, faut essayer. Après, évidemment, je l'utilise, je m'en sers dans mon métier, mais pas tant que ça au fond, parce qu'on pourrait croire, tiens, je fais un métier créatif, donc il se sert de sa douleur, mais pas tant que ça, parce que moi, quand je travaille, j'aime travailler et je l'oublie complètement. Donc je pense pas l'utiliser à ce point. Non, parce que moi, quand c'est pour m'exprimer, c'est effectivement, c'est pour la fuir, quoi. Donc, c'est une manière de trouver des moments heureux, quoi. Donc, je suis pas sûr de puiser dedans pour mon travail. Enfin, c'est une vraie interrogation.
On va reparler, en tout cas, du processus de création dans quelques instants. Et vous allez évoquer Jean-Christophe Meurice, Thomas Bernard, la création, évidemment, du football, des éoliennes, des planches, du cynisme, Truffaut, Kadic, Jim O'Rourke, Michel Delpech et le photographe Grégory Crutzen, juste après Super Bravo, Il n'y a plus foule.
Sanglant sur
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jean-Christophe Meurice, votre sérum littéraire. On va commencer par ça. Il y a le verbe exécrer plus d'une centaine de fois dedans. C'est Mes prix littéraires de Thomas Bernard, paru 9 ans après la mort de l'auteur en 2010. Alors, Thomas Bernard, ça ne rime pas avec épanouissement ou joie.
Oui, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui me fait rire, quoi ?
Parce qu'il est très drôle.
Ben oui, il est tellement. Il a un tel regard, sans doute nourri d'énormément de tristesse. Il a un regard tellement acide sur ses contemporains à l'époque, qu'il développe une forme de méchanceté. Et cette méchanceté-là me fait rire parce qu'effectivement, on peut, fuir de cette terrible tristesse par le rire. C'est un peu notre puissance, notre force. Hein. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est de temps en temps, parce que dans mon travail de metteur en scène, il y a certains lieux, notamment les Bouffes du Nord, c'est un théâtre assez bien foutu, où je peux voir le public, mais vraiment être frontal à eux. Hein. Il y a des petites portes où je peux voir le public. Et il n'y a rien de plus fabuleux de voir une assemblée de gens rire à gorge déployée et bravant ainsi la mort, quoi, face à notre condition. Rire, quoi. Quel beau bras d'honneur à la nature, quoi. Des choses. Parce que bon, c'est sûr que c'est... Elle est épouvantable, notre fin de scénario, là, c'est un peu épouvantable, quoi. Il faut bien s'y faire, quoi. Et donc, je dis ça parce que Thomas Bernard, moi, il me fait beaucoup rire. Parce qu'il a cette méchanceté Il a beaucoup de méchanceté. Voilà. Oui, beaucoup de tendresse à la fois aussi, hein, d'une certaine manière. Mais...
Moins que de la méchanceté, il y a quand même une jubilation dans le ressassement de la médiocrité du monde. Oui. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que... Il en fait partie, c'est-à-dire qu'il se désole de la petitesse de son prochain, tout en sachant qu'il est aussi petit.
Ah oui, prochain. Oui. Il ne sauve personne, mais ni même lui. Enfin, il est sauvé dans cette histoire. Ah oui, il a cette même. Oui, parce que ça peut arriver d'avoir un regard et ne pas avoir un retournement. Mais souvent, un tel degré pour moi de méchanceté, c'est que déjà il a fait ce travail lui-même sur lui-même de destruction. Je pense.
Alors dans Mes prix littéraires, il y a d'abord les circonstances qu'il décrit dans lesquelles il a reçu plusieurs prix littéraires. Ouais. C'est assez amusant, il parle très librement du fait que la plupart du temps, il les accepte uniquement pour l'argent.
Oui, bah oui. Oui, parce qu'en plus, il déteste profondément son pays. Enfin, il a quand même beaucoup de mal avec cette Autriche qui n'a aucune culpabilité sur son passé nazi. Donc il devient un petit peu... Enfin, il les déteste, quoi. Il a une détestation, mais il y va par intérêt et il se retrouve coincé très souvent à devoir monter sur scène pour avoir le prix remis par ses ministres qui passent son temps à
mépriser.
À le mépriser, ouais.
Et alors, à la fin de l'ouvrage, il y a les discours qu'il a tenus aux remises des prix littéraires. Et c'est extraordinaire, c'est encore bien plus puissant qu'un très très bon spectacle de stand-up. C'est-à-dire qu'il arrive, il balance... l'horreur métaphysique à la face de tout le public. Mmh. Et puis, il termine, une fois qu'on est tous... Enfin, on voit que vraiment rien n'a de sens et que la vie n'est que chaos. Mmh. Il dit merci de m'avoir remis ce prix et il s'en va.
Mmh. Oui, bah, c'était toujours son art de la... Ouais, il a tous des discours aussi où il détruit complètement l'État autrichien et il comprend pas que toute la salle soit offusquée. Le ministre est à deux doigts de l'étrangler. Et alors qu'il pensait que ça allait être un, c'est ce que je souhaitais lire. Il pensait que ça allait passer comme ça, qu'ils allaient pas comprendre, que c'est, et non, j'aime beaucoup son humour, mine de rien. Rien que, je sais pas, vous voulez qu'on lise un extrait?
J'aimerais beaucoup, Jean-Christophe Meurice. On vous écoute.
Non mais rien que la première phrase, je crois que les musiciens de l'orchestre philharmonique ont joué une œuvre de Mozart. Donc rien que déjà c'est le départ, moi ça peut me faire une heure quoi. Parce qu'il y a deux sens là-dedans, on peut se dire tiens, mais bon c'était un grand fan de Mozart, donc obligatoirement je crois que les musiciens de l'orchestre philharmonique ont joué une œuvre de Mozart. Ça commence tout de suite comme ça, je crois que c'était là pour je sais plus quel prix. Là j'ai fait un petit montage. Ce qui pourtant devait me blesser profondément, c'était les propos du ministre selon lesquels j'étais, et ça je m'en souviens encore mot pour mot, un étranger né en Hollande, mais qui vivait déjà depuis un certain temps parmi nous, c'est-à-dire parmi les Autrichiens, au nombre desquels monsieur le ministre ne me comptait pas. Je me conjurais intérieurement de garder mon calme. Je me répétais sans cesse du calme, du calme, du calme. Et je me le suis répété jusqu'à ce que le ministre eût conclu son arrogant affront. Il aurait mérité des gifles, mais il obtint un tonnerre d'applaudissements. Une nouvelle fois, les moutons applaudissaient leur dieu nourricier. Le ministre reprit place au milieu des crépitements approbateurs. Et maintenant, c'était à mon tour de me lever et de gagner la tribune. Je tremblais toujours de rage, mais j'étais encore maître de moi-même. Je tirais de ma poche le petit bout de papier avec mon texte et j'en donnais lecture. D'une voix peut-être un peu tremblante, ce n'était pas impossible. Naturellement, mes jambes aussi tremblaient un peu. Or, je n'avais pas encore fini mon texte que la salle commençait à s'agiter. J'ignorais complètement pourquoi, car je donnais calmement lecture de mon texte, dont le thème était de nature plutôt philosophique, quoique marqué par quelques passages, je m'en rendais compte, un peu plus incisif. À quelques reprises, j'avais prononcé le mot « état ». Je pensais, voilà, un texte très calme, grâce auquel je pourrais, comme de toute façon personne ou presque ici ne le comprendra, m'éclipser sans trop faire de vagues. Il parlait de la mort et de sa toute-puissance et du caractère dérisoire de tout ce qui relève de l'humain et de la précarité des hommes et du caractère nul et non avenu de tout état. Je n'avais pas encore fini mon texte, donc, que le ministre avait déjà bondi, le visage cramoisi, s'était rué sur moi et m'avait invectivé en des termes que je ne parvins pas à saisir.
Implacable lucidité avec un soupçon de mauvaise foi, évidemment, mépris littéraire de Thomas Bernard.
Bonjour, ça va?
Oui.
Excusez-moi. Pour mes mains?
Parce que?
Elles sont mouillées.
Oui, bon.
Vous savez pourquoi?
Non.
Eh bien, je suis allé... Parce que je suis... Ah, pardon, je le refais.
Ouais.
Bonjour, ça va?
Ouais.
Vous avez vu? Vous avez remarqué?
Deux.
Les mains?
Oui.
Vous n'avez pas remarqué?
Pour... Vous avez les mains moites, simplement? Ne laisse pas la parole à la personne.
D'accord, pardon.
Sinon, je te dis que tu as les mains moites. Pardon. C'est tout de suite, regarde.
Attends, je le refais.
Oui, vas-y.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va?
Ouais.
Tu as remarqué?
Non.
Vous avez remarqué?
Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Tu as remarqué? M'a mouillé. C'est pourquoi?
Non.
Réfléchissez.
Jean-Christophe Meurice, on entend un extrait de votre film Apnée, sorti en 2016, pour introduire la première activité qui vous grise. C'est un film avec Céline Führer, Maxence Tuel et Thomas Simeka qu'on entendait là. L'activité, c'est faire des spectacles et des films, bref, créer. Vous n'éprouvez jamais de souffrance dans la création?
Non, pas à ce point. J'éprouve du labeur. Si peut-être la volonté de trouver. Donc quelquefois ça peut mettre en état, comme j'ai une tendance un peu obsessionnelle, je peux me mettre donc en état de souffrance parce que obsessionnel. Mais pas de tristesse profonde à travailler. Non, pour moi c'est une vraie joie de travailler avec des acteurs, de travailler avec des artistes, d'écrire, de jouer, de ricaner, de rigoler, de se moquer, de s'attendrir, de pleurer, de désirer, de bander, enfin tout. C'est pour moi c'est que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est le moyen cathartique d'exprimer et surtout aussi de travailler en société et je l'espère heureuse.
Justement, Jean-Christophe Meurice, il y a quelque chose qui revient quand on lit vos interviews. Dans une interview, vous dites que vous avez rêvé pendant longtemps d'être médecin pour soigner et que finalement vous êtes artiste créatif avec le désir de faire du bien aux gens. Il y a beaucoup de constats désespérés dans vos spectacles et en même temps, vous ne voulez pas que ce soit totalement désespéré. Il y a une petite lueur à chaque fois.
Je l'espère. Après, c'est difficile pour moi de dire... Mais ouais, je l'espère. Effectivement, il y a sans doute un croquis un peu noir et drôle de nos travers. C'est pas totalement misanthrope, non. Il y a une forme de tendresse, oui. Mais c'est ce que je racontais tout à l'heure, quoi. Il y a rien de plus réconciliateur pour moi avec l'humanité que voir une salle rire. Alors évidemment, ça flaque mon narcisse, parce que je me dis, tiens, le spectacle marche, donc je suis très heureux. Mais ça, c'est encore au-delà. C'est-à-dire que vraiment, de voir une salle tout d'un coup régresser, voir toutes ces têtes s'infantiliser, de redevenir des enfants, ça me touche profondément et j'ai l'impression de faire du bien. J'ai l'impression que ça soigne. Hein, justement, ça les fait fuir d'une mort arrivante, de leur tristesse quotidienne, de leur histoire, ça les fait fuir et ça les fait rire et donc parce qu'il y a des artistes qui aiment faire un art engagé, il y en a qui aiment faire du beau et moi j'aime faire du bien. Il y a plusieurs types d'ambition artistique pour moi. Moi
j'aime vraiment. Vous êtes engagé d'une certaine manière, Jean-Christophe Meurice.
Ah bah oui, parce que le rire est politique obligatoirement. Oui.
Et vous l'êtes, vous n'hésitez pas à en parler dans les médias.
C'est-à-dire...
Vous qualifiez d'extra-gaucho.
Ah bon?
Oui.
Ouais. Bah oui. J'ai dit ça, moi.
Oui.
Ah, vous êtes allé voir tout, quoi.
Tout.
Oh, quel journaliste. Quel journaliste.
Quel obscène journaliste. Ouais. Dans les activités qui vous mettent en joie aussi, Jean-Christophe Meurice, là, on parlait de retour à l'enfance et de régression. D'ailleurs, ça revient souvent dans vos spectacles ou dans votre film, puisqu'il n'y a pas de gens solitaires, en fait. C'est des petites communautés de marginaux qui se mettent en place, que ce soit dans votre court-métrage, où en fait, il y a des fêtes dans un endroit dont le personnage principal ne veut pas sortir, ou que ce soit dans Apnée, où c'est quand même un trio. Là, je ne sais pas comment je vais faire la transition, je vais la faire quand même. Vous aimez aller regarder votre fils de 12 ans jouer au football au club le samedi?
Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, parce que moi j'ai fait des enfants.
Ok.
Non mais c'est un sacré antidote à la dépression. Ça pourrait être un peu honteux de le dire. Mais non, c'est un antidote, les enfants. Et je les aime. Mais ça m'a fait sortir de moi, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tout simplement, je me suis occupé d'eux, plus de moi. Je les ai aimés et je suis passé, tu vois, un peu mon rapport à moi-même et c'est un peu hop. Donc effectivement, et l'emmener tous les samedis au foot, c'est le voir lui. Puis comme j'aime beaucoup le football, j'aime beaucoup le sport à regarder, à faire aussi, mais à regarder, c'est quelque chose que je trouve ça très excitant. C'est un truc de jeunesse, hein, de toute façon. Donc le voir reproduire ce qui parce que moi aussi j'ai fait du football quand j'étais plus jeune et mon grand-père m'y amenait et tout. Donc oui, puis j'aime bien moi le samedi matin, normalement c'est une heure où très tôt aller sur les terrains de banlieue, le mélange des enfants, des adultes, tout ça et n'est juste que dans l'intérêt du plaisir de l'enfant et de notre propre plaisir, tout est évacué d'intérêt, vous voyez, d'intérêt quoi. C'est juste là pour le bon plaisir. Alors il suffit qu'il fasse beau ce matin-là, ça peut être extraordinaire.
Il y a quelque chose
aussi. Ça peut être un sacré remède à la mélancolie.
Il y a quelque chose. Merci de faire la publicité pour l'émission. Je le mettrai en jingle. Jean-Christophe Meurice, il y a quelque chose qui vous sauve aussi de la mélancolie, puisque comme vous le disiez, il y a quelque chose d'assez nombriliste. On est refermé sur soi, et évidemment, le premier remède, c'est de s'extraire de soi, d'une façon ou d'une autre. Vous aimez regarder aux fenêtres, la nuit, la vie des gens. Et vous avez mis entre parenthèses référence Baudelaire. Alors on a cherché, j'imagine que vous parlez du poème en prose, Les Fenêtres.
Oui, les petits poèmes en prose. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais je fais l'association de ça, je n'étais pas obligé de parler de Baudelaire, mais oui, c'est, voilà. Mais ça, c'est de la contemplation, quoi. Mais il y a beaucoup de choses dans la contemplation qui peuvent me faire plaisir. Et
les éoliennes.
Ouais, les éoliennes, je trouve ça vraiment bon. J'ai marqué ça. En même temps, je pourrais m'en foutre. Mais non, mais c'est vrai que les éoliennes, oui, c'est très contemplatif. Non, par contre, la vie intérieure, je trouve qu'on voit, comme dit Baudelaire, on comprend mieux une personne, on voit mieux la vie d'une personne à travers sa fenêtre quand elle est dans sa cuisine, dans son salon, tout ça. J'adore ce côté un peu, c'est du voyeurisme, c'est aussi de la curiosité, et je pourrais rester des heures à regarder toutes ces fenêtres allumées et de voir les gens vivre à l'intérieur quand c'est possible.
Juste après un morceau de la playlist Inter, oui, je vous montrerai comment, Strange de Céleste. I tried for you. Trying to see through smoke and it was the moon. What could I do? I touch your head to pull your thoughts into my hand, but now I
man.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jean-Christophe Meurice. On vous a demandé un système de pensée, une philosophie anti-spleen. Vous avez choisi, sans surprise, le dadaïsme ou le cynisme.
Sans surprise.
Non, sans surprise, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est cohérent avec tout ce que vous créez, Jean-Christophe Meurice. Parlons des chiens. Le cynisme qui vient étymologiquement de chien.
Oui, exactement. Mais c'est pas le cynisme, parce qu'aujourd'hui le mot est un peu galvaudé. Aujourd'hui, quand on parle cynisme, on peut penser justement
de
politique.
Blasé.
Ouais, ou enfin des gens qui mentent allègrement et qui le savent et qui l'assument. Et le cynisme est pas très loin de la malhonnêteté intellectuelle d'une certaine manière. Or, à l'époque, créé par Diogène, c'était autre chose. C'était des fouteurs de troubles.
De la dérision.
Voilà. Mais il le faisait avec une grande dérision. Platon disait de Diogène que c'était un Socrate qui est devenu fou. J'aime bien cette définition-là.
Parce qu'il se masturbait en public.
Oui, il est mort en mangeant du poulpe. Il a quand même.
Ça, c'est une belle mort.
Ouais, c'est une sacrée belle mort. Ouais. Mais il remettait tout en cause. Il mettait des vérités mises en place à l'époque. Mais avec une dérision telle que effectivement c'est un beau cousinage, enfin une belle association par rapport à ce que pourrait être, toute modestie gardée, les chiens de Navarre.
Il y a cette impertinence qu'on retrouve dans votre troupe quand même, Jean-Christophe Meurice, et puis aussi le fait, il semble en tout cas, de s'affranchir de l'opinion.
Ah bah oui, c'est de remettre en cause, ouais. Oui, d'aller dans les travers de ça, ou alors l'affirmer, de voir ce qu'elle vaut, hein. Par exemple, jusque dans vos bras, sur le concept de la notion d'identité nationale, tout ça, c'était bien d'essayer avec nos propres moyens, parce qu'encore une fois, pour moi, les artistes sont des grands idiots, hein. Ce sont pas des politiques, détenteurs d'une vérité. Enfin, il faudrait quand même, de temps en temps, qu'on comprenne que l'art, c'est pas la continuité du ministère de l'Éducation nationale, quoi. Malheureusement, c'est de plus en plus comme ça. On a la chance d'être dans un pays qui subventionne, et ça, c'est une chance immense par rapport à d'autres pays. Mais il faut pas qu'effectivement, ça se transforme en Éducation nationale. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais je l'ai dit.
Jean-Christophe Meurice, je viens à votre rescousse.
Oui.
En parlant de dadaïsme.
Ah, voilà.
En recommandant à tous les auditeurs de lire quand même le manifeste Dada du poète Tristan Tzara, parce qu'il est très amusant.
Oui.
Et c'est à nouveau, le dadaïsme, une protestation.
Oui, là, c'est le.
Avec du ludique.
Ah oui, c'est le laisser aller de la partie cachée de l'iceberg. C'est la toute puissance de l'inconscience, et c'est claquer la gueule de son surmoi, et c'est de laisser aller toute l'expression, et c'est se laisser aller continuellement dans son processus créatif, aux rêves, aux cauchemars, et effectivement ça peut devenir un mode de vie, quoi. Donc nous, on n'est pas très loin d'une manière un peu dadaïste de travailler, parce que quand on va sur le plateau, quand on tourne, tout d'abord, on se laisse aller. Je dis juste deux ou trois mots, une situation, et les acteurs s'abandonnent dans leurs propres mots, la propre situation. Vous voyez, la manière de comment on travaille. J'aime bien travailler avec des acteurs qui, j'écris pas les dialogues. Hein, parce que si j'écrivais tout, hein, si par exemple je savais comment était le décor, comment était la moquette, quel mot, telle virgule, vous voyez, moi j'admire les réalisateurs ou les metteurs en scène qui savent tout comme ça. Donc ce qui fait que on vient sur leur planète totalement. Moi j'ai besoin de rencontrer l'autre, qui est une autre planète, pour que ça crée une troisième planète. Donc c'est pour ça que les acteurs, quand ils vont sur le plateau, ils savent les situations, mais ils savent pas comment ils vont les jouer, avec quel mot. Et donc là, ça demande pour ces acteurs-là de se laisser aller, de s'abandonner et d'ouvrir la porte un peu plus à une écriture, à une parole automatique, donc laisser entrer un peu l'inconscient, et donc laisser aller leur propre démence. Et moi j'aime encore, même si je suis pas un fan de Deleuze, mais là je le recite si possible, c'est que quand il aimait une personne, il aimait bien le charme de sa démence. Et ben, c'est un peu pareil avec les acteurs, c'est de sentir le charme de leur démence, et quand ils s'y prêtent à ça et quand ils se laissent aller, et bien voilà.
C'est joli, le charme de la démence. Oui. Sautons sur la planète de Truffaut.
Je comprends pas très bien le but de votre visite. Qu'attendez-vous de moi, au juste?
Eh bien voilà, personne ne m'aime et je veux savoir pourquoi.
Oui, je sais ce que vous allez me répondre.
C'est pas... Pourquoi est-ce que je veux pas voir un psychanalyste?
Alors c'est pas l'argent que ça me coûterait, ça j'ai des moyens, croyez-moi. Mais je ne veux pas perdre mon temps à raconter ma vie sur un canapé.
Non, je suis pas une femmelette, n'est-ce pas? Et mon magasin me prend trop.
On est bottier 24 heures sur 24, ou alors on n'a qu'à faire autre chose, mon âge.
Mais enfin, si vous pensez que tout le monde vous déteste, c'est peut-être que vous avez montré du mépris à l'égard de tel ou tel.
Ah non, absolument pas. Non, je méprise personne. Vous savez, tout le monde peut venir.
Se faire chausser chez Tabar.
Je chausse aussi bien les juives que les femmes arabes. Et même les Shintok, le jour où elles viendront. À condition qu'elles veuillent bien porter des talons hauts. Mais c'est pas demain la veille.
Délices de 1968, baiser volé de François Truffaut. Et là, on entend la scène dans laquelle Michael Lonsdale demande à un détective privé de trouver pourquoi personne ne l'aime. Vous vous êtes déjà posé cette question, Jean-Christophe Meurice?
Oui.
Vous avez déjà eu une réponse?
Non, et je ne suis pas allé voir des détectives privés, mais je trouve l'idée géniale d'aller voir un détective privé pour demander pourquoi. Je trouve que cette scène est fabuleuse. Non, mais je ne suis pas un fan absolu de Truffaut, hein, mais cet extrait-là, cette alchimie entre le jeu de Lonsdale, qui est quand même savoureux, c'est un acteur formidable, l'écriture là de Truffaut, la situation, c'est là, on est dans... entre le réel et le surréel. Non, bon, y a pas besoin d'expliquer, on vient de l'entendre, mais je trouve que ça... Il y a des scènes comme ça où si je pourrais là l'entendre 50 fois de suite. Et à chaque fois, je trouverais le moyen de rire. Non, mais c'est voilà. Mais je pourrais vraiment le... Je pense que j'ai dû l'avoir une centaine de fois et à chaque fois, elle me fait rire. Donc, c'est inépuisable. Donc, quand il y a un morceau comme ça de musique ou de film, c'est... Bon, voilà. Mais je suis pas... Bon, pas plus Truffaut, hein. ça me sort pas à ce point-là, ça me met pas en joie tous les films de Truffaut.
C'est hautement mélancolique et aussi réjouissant. Truffaut, il y a un truc doux amer.
Non, mais il y a des très beaux films, hein. La femme d'à côté, c'est ça? Très beau film aussi celui-ci. Mais j'aurais peut-être dû choisir d'autres films. Mais
Passons d'un homme qui enquête sur lui-même car il ne comprend pas la réalité à un paranoïaque. Enfin, c'est ce que disent les autres, qui la comprend trop bien.
There is a major flaw in America, which does not appear to exist in France, and that is the American people are basically anti-intellectual. They're not interested in novels of idea, and science fiction is essentially a field of ideas. And the anti-intellectualism of America and Americans prohibits their interest in imaginative ideas.
On entend Philippe K. Dick en 1977 avec quelqu'un qui semble jouer de la flûte derrière lui. Et l'auteur dit en substance que les Américains sont anti-intellectuels, qu'ils ne s'intéressent pas aux romans, aux idées et aux concepts. Vous avez choisi, Jean-Christophe Meurice, une citation de K. Dick qui est pour vous une citation consolatoire, extraite de son roman Siva, paru en 80. « La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître quand on a cessé d'y croire ».
Oui, ça, je trouve que c'est une phrase qui me fait du bien, parce que pourtant elle a l'air triste, un peu amère, un peu. Mais oui, moi, j'ai longtemps cru que pour passer par-dessus notre condition, il fallait être soit croyant, soit poète. Mais finalement, pas si sûr que ça. Goethe avait une fascination pour les cailloux, et il passait des journées entières à regarder les cailloux. voyez, et donc il regardait la réalité, quoi. C'est-à-dire, et il disait même, alors là, il disait une phrase que je vais tout de suite, je sais que tout le monde attend cette phrase.
Avec, on n'en peut plus, il y a 2 millions de personnes qui attendent.
Il y a des manifestations qui se font, est-ce que je l'ai mis?
La place de la Concorde est fermée.
Et qu'est-ce que j'ai mis? Commandeur Goethe disait, j'aime bien cette phrase, on peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'à un moment dénué de tout ça, dénué de toute illusion qu'on se donne parce qu'on a peur, et ça peut être intéressant d'être dans ce travail, de regarder vraiment la réalité, au plus près.
Mais il y a malgré tout l'idée de transcendance dans ce que vous racontez, Jean-Christophe Meurice, parce qu'il dit bâtir quelque chose de beau avec des cailloux, on prend les cailloux, mais ensuite on en fait quelque chose de beau.
Oui, bah oui.
C'est ouais. Le processus alchimique, on ouais. prend la boue ouais. et on en fait une belle boue.
Ouais. Ouais, mais ça c'est la deuxième étape. Mais la première, d'avoir cette exigence de se dire, tiens, enlevons. Alors chacun son bonheur. On peut être très heureux avec ses illusions, mais c'est juste là où j'en suis rendu. Je trouve que cette phrase de Kadic a quelque chose qui me ça me fait penser aussi, si je puis. Il y a une anecdote, c'est un écrivain russe, alors je suis désolé, je m'en souviens plus du tout et j'ai pas retrouvé, qui était célèbre, qui était très connu, il n'y en a pas 36 000, si, il y en a 36 000. Et un jour, comme ça, où il était sans doute dans un excès de mélancolie, mais vraiment au bord du suicide, sous opium. Il décide de rentrer chez lui, il prend le train de la nuit, et il arrive chez sa mère, dans la campagne russe, qui était une paysanne. Il arrive comme ça à 6h30 du mat, encore plein d'alcool, de tristesse, de morbidité, tout ça, quoi. Et il voit sa mère, à 6h30 du matin, sortir, sifflotante, en train d'étendre le linge, sifflotant de joie en regardant le soleil se lever, et il s'écroule à ses pieds en pleurant. Ça, je trouve que je trouve ça fascinant, cette anecdote, parce qu'effectivement, on se plante.
Comment ça? Parce que moi j'attendais une chute.
C'est déçu par la chute.
Je pensais qu'il allait se passer quelque chose justement qui ne prolonge pas cet état mélancolique. Or là, il a atteint l'apogée de la mélancolie. Non, voilà, il s'écroule au pied de sa mère.
Ouais, parce que c'est la bêtise d'être. Elle est moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Elle est juste dans la dégustation d'une réalité, du présent, tout simplement, et que justement lui il est plein de son. De ses illusions, de ses ambitions, de son, enfin vous voyez, de tout ce qui justement peut nous bouffer quand on est dans ces états de tristesse, et il est face juste à une joie terrienne réelle qu'apporte la nature, et c'est un vrai dilemme, enfin en tout cas ça me parle beaucoup, quoi.
Vous savez ce qui nous manque là?
Non.
Du Michel Delpech.
Bah, par exemple.
Et heureusement, vous y avez pourvu, bah, Jean-Christophe.
Tout est bien fait, je trouve. Trop bien fait.
Trop bien fait. Ouais. Ce n'est pas la réalité, Philippe Kadic. Paranoïa ou lucidité?
Au-dessus du Mont Blanc. y a pas de misère. D'ici, tout est possible, tout est beau sur la terre. Tous les hommes sont égaux, plus d'avion.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Jean-Christophe Meurice qui vient de nous faire entendre un titre de 74, Vue d'avion un soir de Michel Delpech, composé par Julien Lepers. Le saviez-vous ?
Non, pas du tout.
Bon, mais, voilà, bah ouais. Vous le savez.
Peut-être très bien. Super, Julien Lepers. Grand Super. Remède à la mélancolie. Oui. Question pour un champion.
Oui. Et alors là, c'est une chanson dont l'air est entraînant et
c'est
dont
vrai,
les
quand
paroles.
Quand on regarde
sont...
vraiment Julien Lepers, on se dit tiens, là.
Julien Lepers, c'est le présent. Donc c'est, on peut pas.
Être oui, non, mais il est en forme de folie comme ça. Donc là, c'est totalement un vrai remède à la mélancolie, Julien Lepers. Je pense qu'une soirée avec Julien Lepers, ça va être quelque chose, quoi.
Bah oui.
Ah non, mais ça donne des idées. En plus, votre émission parle de nous et en plus, ça donne des idées.
Et mon émission parle de Julien Lepers. Donc... ouais. Alors là, quand même, on parle de la laideur du monde qu'on ne voit pas de loin. C'est un constat très noir.
Ouais, ouais, non, mais moi, cette musique-là, elle me fait penser plutôt à mes départs en vacances, en famille. Je suis avec mon frère derrière. Mon père met cette cassette qui est une espèce de compilation de Delpech et on va vers le Portugal comme ça. Il fait beau et tout. Donc, moi, il y a quelque chose plus de l'humeur enfantine que me rappelle cette chanson-là et elle me met en joie. Delpech me rappelle les moments joyeux de ma jeunesse.
One more, then you know what you're in for. You ain't getting any sleep tonight.
1999. Halfway to a Three-Way de l'ancien membre du groupe Sonic Youth, Jim O'Rourke, qui vit maintenant au Japon. Je suis pas sûre de la pertinence de cette information, mais j'aime bien connaître la latitude et la longitude de mon prochain. Alors, quand même, ce titre, Halfway to a Three-Way, à mi-chemin d'un ménage à trois.
Ouais.
Avec dedans des paroles assez étranges où il dit quand même « Tout ce que tu as à faire, c'est de t'allonger pendant que je mets ton fauteuil roulant sur le côté. Toi et tes stupides crises d'épilepsie. » Tu ne peux pas fuir, alors je t'allonge sur mon lit, peu importe que tu sois en état de mort cérébrale. Ouais. Je peux être si proche de toi maintenant que tu es dans le coma.
Ouais, ouais. Non, mais vous m'apprenez, parce que moi, je savais pas du tout. C'est moi, je fais partie des gens
qui n'écoutent, pas les paroles.
Qui n'écoutent pas les paroles. Encore moins en anglais, donc c'est peut-être un petit peu... Non, non, mais vous me l'apprenez. Non, mais après, il y a certaines chansons de Jim O'Rourke que j'ai traduites, mais pas celle-ci. Mais encore une fois, c'est la musicalité. Et j'aime bien cet extrême douceur et cette fausse naïveté musicale qui me met moi dans un état de sérénité, hein, parce que donc effectivement c'était pas par rapport à la compréhension intellectuelle de la chanson où là effectivement j'ai aucune explication vu que je l'ai écouté je pense 2000 fois mais je ne savais pas les paroles, mais ça m'arrive, hein, y a plein de chansons des Beatles, je connais pas du tout le sens. C'est une réponse.
Oui.
In these pictures I was very conscious of attempting to say in a literal way almost nothing. I wanted almost exclusively the meanings to reside on light and atmosphere and color. I just want enough of the story to bring the viewer in and to create a sense of mystery. But certainly, there's no answers in these pictures. There's just questions.
Le photographe américain Gregory Crutzen, au sujet de sa série de 2014, Cathedral of Pines, il explique en résumé que ses photos ne veulent rien dire de spécial et soulèvent plus de questions que de réponses, et qu'il voulait que le sens émane plutôt de la lumière, de l'atmosphère et la couleur. Vous avez choisi ces photographies, Jean-Christophe Meurice, qui sont des élaborations très minutieuses. La plupart des décors sont faits en studio avec des moyens assez colossaux.
Oui, pour faire une photo, quelquefois, il met 15 jours pour trouver. Et c'est comme un studio de cinéma. Ouais. Oui, il est très méticuleux. J'aime bien sa réponse parce qu'elle est, elle est. Je ne savais pas sa réponse, mais effectivement, il y a quelque chose de très organique quand on regarde une photo de Crutzen. Moi, ce que je... bah, alors là, c'est extrêmement mélancolique, les photos de Crisson. Mais moi, je pense que quelquefois, mélancolie plus une œuvre mélancolique regardée par un mélancolique égale joie. Donc, c'est une addition, à mon avis, qui peut marcher. Et elle marche pour moi. Et j'aime bien parce que c'est chaque fois, ils volent des positions qu'on a sans doute dans notre quotidien et dont on se rend pas compte. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'arrête face à son miroir nu. Et on reste comme ça...
Dans l'effroi.
Non, absent. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on a énormément d'absences. Et on les montre pas, mais on a des absences. On peut pas se regarder tout le temps. Donc, et Gregory Crisson, il capte ça, et je trouve ça d'une beauté et d'une joie infinie.
Allez voir, chers auditeurs, ces photographies sur Internet. Jean-Christophe Meurice, merci d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, j'étais content.
Votre pièce « Tout le monde ne peut pas être orphelin » sera au Bouffe du Nord au mois de juin prochain. Et bientôt, au Théâtre du Rond-Point à Paris, aura lieu un festival d'anciens spectacles des Chiens de Navarre, l'occasion de rassembler les 22 comédiens qui ont appartenu à la compagnie. Je sais aussi que vous préparez un nouveau long métrage.
Oui.
Voilà, suspense, jusqu'à ce qu'on en ait des nouvelles. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission, comme toujours. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'il faut que je vous le dise à chaque fin d'émission. J'espère que votre humeur a maintenant l'entrain d'un maïs d'artifice. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.